Quatrième partie. L'approche. Kaladin, Shallan, Dalinar. Chapitre 59. Seller. J'adresserai cette lettre à mon vieil ami, car je n'ai pas la moindre idée du nom que vous utilisez actuellement. Kaladin ne s'était encore jamais trouvé en prison. Dans des cages, oui. Dans des fosses, des enclos, dans une pièce surveillée par des gardes, mais jamais dans une véritable prison. Peut-être bien parce que les prisons étaient trop accueillantes. Il disposait de deux couvertures, d'un oreiller et d'un pot de chambre qu'on changeait régulièrement. On le nourrissait bien mieux qu'il ne l'avait jamais été en tant qu'esclave. L'étagère de pierre n'était pas le lit le plus confortable qui soit, mais avec les couvertures, c'était tolérable. Il ne bénéficiait pas de fenêtres. Mais au moins n'était-il pas dehors, exposé aux tempêtes. L'un dans l'autre, la pièce était très agréable, et il la détestait. Par le passé, les seules occasions où il s'était retrouvé coincé dans un petit espace avaient été celles où il attendait la fin d'une tempête majeure. Mais à présent qu'il était enfermé ici des heures d'affilée, sans rien d'autre à faire que de réfléchir allongé sur le dos, il se retrouvait agité, en nage. Et les espaces ouverts lui manquaient. Le vent lui manquait. La solitude ne lui pesait pas trop. Ses murs, en revanche, il semblait l'écraser. Le troisième jour de son emprisonnement, il entendit du tapage provenant d'un peu plus loin dans la prison. Il se leva en ignorant Syl, assise sur son mur, sur un banc invisible. Qu'étaient donc ces cris ? Il résonnait dans le couloir. Sa petite cellule était isolée des autres. Depuis qu'on l'avait enfermée, il n'avait vu personne d'autre que les gardes et les serviteurs. Des sphères brillaient au mur, gardant l'endroit bien éclairé. Des sphères dans une pièce destinée aux criminels. Étaient-elles là pour narguer les hommes enfermés? Des richesses tout juste hors de portée. Il s'appuya contre les barreaux froids pour écouter les cris indistincts. Il imagina le pont 4 venu le faire échapper. Plaise au père des tempêtes qu'il ne tente rien d'aussi stupide. Il lorgna l'une des sphères dans sa lampe accrochée au mur. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda Syl. « Je pourrais peut-être m'approcher assez pour aspirer cette flamme. Elle se trouve à peine plus loin que n'étaient les Parchendi quand j'ai aspiré la flamme de leur gemme. »«
Et ensuite ?» demanda Syl d'une petite voix.
« Bonne question. » « Tu m'aiderais à m'échapper si je le voulais ?»«
Est-ce que tu le veux ?»«
Je ne sais pas trop. » Il se retourna, toujours debout, et appuya le dos contre les barreaux. « Il le faudra peut-être. » Cela dit, s'enfuir est contraire à la loi. Elle leva le menton.
« Je ne suis pas un Ospren. Ce qui m'importe, ce ne sont pas les lois, c'est ce qui est juste. »
« Sur ce point, nous sommes d'accord. »
« Mais tu es venu de ton plein gré, » poursuivit Syl. « Pourquoi voudrais-tu partir maintenant ?»«
Je ne les laisserai pas m'exécuter. »«
Ils ne vont pas le faire, » répondit Syl. « Tu as entendu Dalinar ?»«
Il peut aller aux foudres, Dalinar. C'est lui qui a laissé tout ça se produire. »«
Il a essayé de... »«
Il a laissé tout ça se produire !» aboya Kaladin en se retournant pour cogner les barreaux à l'aide de ses mains. Encore une rafale de cages. Le voilà revenu à son point de départ. Il est exactement comme les autres. Syl volta jusqu'à lui et vint se poser entre les barreaux, main sur les hanches.
« Répète-moi ça !»
Il... Kaladin se détourna. Il était dur de lui mentir. « Bon, d'accord, ce n'est pas vrai. Mais le roi, si, admets-le, Syl. Elokar est un roi déplorable. Au départ, il m'a loué pour avoir essayé de le protéger, et maintenant, sur un coup de tête, il veut me faire exécuter. C'est un enfant. »
« Kaladin, tu m'effraies. »
Ah bon? Tu m'as demandé de te faire confiance, Syl. Quand j'ai sauté dans l'arène, tu m'as dit que les choses seraient différentes cette fois-ci. En quoi est-ce différent? Elle détourna le regard, l'air soudain minuscule. Même Dalinar a reconnu que le roi avait commis une grosse erreur en laissant sa déesse échapper au défi, reprit Kaladin. Moash et ses amis ont raison. Ce royaume se porterait bien mieux sans Elokar. Syl se laissa tomber à terre, tête baissée. Kaladin regagna son banc, mais il était trop agité pour s'asseoir. Il se retrouva en train de faire les 100 pas. Comment un homme était-il censé vivre dans une si petite pièce, sans air frais à respirer? Il ne leur permettrait pas de le laisser ici. « Vous avez tout intérêt à tenir parole, Dalinar. Faites-moi sortir, et vite. » Le tapage, quelle qu'ait pu en être la cause, se tut. Kaladin interrogea la servante à ce sujet quand elle lui apporta son repas, qu'elle poussa à travers la petite ouverture à la base des barreaux. Elle refusa de lui parler, et repartit précipitamment comme un crémillon face à la tempête. Kaladin soupira, prit son repas, légumes à la vapeur, arrosés d'un filet d'une sauce noire salée, et se laissa retomber sur son banc. On lui donnait de la nourriture qu'il pouvait manger avec les mains, ni fourchette, ni couteau, au cas où.
« Joli logement que vous avez là, porte-pont !» déclara Malice. « Moi-même, j'avais envisagé de m'y installer à plusieurs reprises. Le loyer est peut-être bon marché, mais le prix d'entrée est un peu rude. »
Kaladin se releva brusquement. Malice était assis à l'extérieur de la cellule, au-dessous des sphères, sur un banc proche du mur opposé, et retournait sur son giron un étrange instrument fait de cordes tendues et de bois astiqué. Il n'était pas là l'instant d'avant. Bourrasque. Le banc était-il seulement là l'instant d'avant?
« Comment êtes-vous entré ? » s'exclama Kaladin.
« Eh bien, il y a des choses qu'on appelle des portes.
Les gardes vous ont laissé passer ?»«
Techniquement ?»
demanda Malice en pinçant une corde, puis en se penchant pour écouter tandis qu'il en pinçait une autre.
« Oui. »
Kaladin se rassit sur le banc de sa cellule. Malice portait sa tenue entièrement noire, et sa fine épée d'argent qu'il avait décrochée de sa taille reposait à côté de lui sur le banc. Un sac marron y était également jeté. Malice se pencha pour accorder son instrument, une jambe croisée par-dessus l'autre. Il fredonna tout bas pour lui-même et hocha la tête.
« L'oreille absolue, commenta Malice, rend tout ça tellement plus facile qu'autrefois. »
Kaladin resta assis et regarda Malice se rappuyer contre le mur. Puis, ne rien faire.
« Je vous écoute, » insista Kaladin. « J'en suis fort aise. »
« Vous allez me jouer de la musique ?»«
Non, vous ne l'apprécieriez pas. »«
Dans ce cas, pourquoi êtes-vous là ?»«
J'aime rendre visite aux gens en prison. Je peux leur raconter tout ce qui me passe par la tête sans qu'ils soient en mesure d'y faire quoi que ce soit. »
Il leva la tête vers Kaladin, puis posa les mains sur son instrument et sourit.
« Je suis venu pour une histoire. »«
Quelle histoire ?»«
Celle que vous allez me raconter. »«
Bah !» répondit Kaladin en se rallongeant sur son banc. « Je ne suis pas d'humeur pour vos jeux aujourd'hui, Malice. » Ce dernier joua une note sur son instrument.
« Tout le monde dit toujours ça, ce qui d'emblée en fait un cliché. Ça me pousse à me poser une question. Arrive-t-il vraiment que des gens soient d'humeur pour mes jeux? Et le cas échéant, est-ce que ça n'irait pas à l'encontre de l'objectif même du genre de jeu que j'affectionne ?»
Kaladin soupira, tandis que Malice continuait à pincer les cordes pour en tirer des notes. « Si je joue le jeu aujourd'hui, » le questionna Kaladin, « est-ce que ça me débarrassera de vous ?»«
Je partirai dès la fin de l'histoire. » »«
Très bien. Un homme est allé en prison. Il a détesté. Fin. »«
Ah !» répondit Malice. « Alors c'est une histoire qui parle d'un enfant ?»«
Non, ça parle. » Kaladin s'interrompit. De moi.
C'est peut-être une histoire pour un enfant, reprit Malice. Je vais vous en raconter une pour vous mettre dans l'ambiance. Un poussin et un lapinou s'en allèrent gambader ensemble dans l'herbe par une journée ensoleillée.
Un poussin? Un bébé poulet? Demanda Kaladin. Et un quoi?
Ah, j'ai eu un moment d'absence, répondit Malice. Désolé, je vais l'adapter pour vous. Une flaque de vase et une répugnante créature à 17 pattes aux allures de crabe rôdaient ensemble sur les rochers par une insupportable journée pluvieuse. C'est mieux ?
J'imagine. L'histoire est terminée ?
Elle n'a pas encore commencé.
Malice frappa brusquement les cordes, puis se mit à en jouer avec une furieuse concentration. Une série de notes répétées, vivantes, énergiques. Une note accentuée, puis 7 à la suite, frénétiques. Le rythme s'empara de Kaladin. Il sembla faire trembler la pièce entière.
« Que voyez-vous ? » demanda Malice.
« Je... »«
Fermez les yeux, crétin ! »
Kaladin s'exécuta. « C'est complètement idiot. »
« Que voyez-vous ? »
répéta Malice. Ce dernier jouait avec lui. Il avait la réputation de faire ces choses-là. Il était censé avoir été le mentor de Sigzil. Kaladin n'aurait-il pas dû gagner un sursis pour avoir aidé son apprenti ? Il n'y avait rien d'humoristique dans ces notes puissantes. Malice ajouta une deuxième mélodie pour compléter la première. La jouait-il avec son autre main ? Les deux à la fois ? Comment un seul homme, un seul instrument, pouvait-il produire autant de notes ? Puis, Kaladin vit, dans sa tête, une course.
« C'est la chanson d'un homme qui court, » déclara-t-il.
« Dans la partie la plus aride du jour le plus ensoleillé, l'homme quitta la mer de l'Est. »
Malice prononçait ces mots sur la cadence de sa musique, une psalmodie qui était presque un chant.
« Où il courait, ce qu'il fuyait, c'est vous qui me l'apprendrez. »
« Il fuyait la tempête, » dit Kaladin tout bas.
« Cet homme était Célère. Vous connaissez son nom, celui des chants et des légendes, l'homme le plus rapide jamais né, le pied le plus sûr qui ait jamais couru. En des temps lointains, des temps que j'ai vécu, il défia le héros Shadarach. Il gagna cette course, comme toujours, mais voici venue l'heure de l'échec. Car Célère, le pied sûr, Célère, le si rapide, hurla son but à qui voulait l'entendre. Battre à la course la tempête et le vent. Quelle audace était cela, et quelle impertinence ! Battre le vent, c'était impossible. Nullement découragé, Célère se prépara. Vers l'est, il partit donc notre Célère. Sur le rivage, il prit donc son départ. La tempête s'emporta, se déchaîna. Qui était ce mortel ainsi prêt à s'élancer ? Nul homme n'aurait dû tenter le dieu des tempêtes. Nul idiot n'avait jamais témoigné d'une telle imprudence.
Comment Malice jouait-il cette musique avec deux mains seulement ? Une autre main avait bien dû se joindre aux siennes. Fallait-il que Kaladin s'en assure ? Mentalement, il vit la course. Célère, un homme aux pieds nus. Malice affirmait que tous le connaissaient, mais Kaladin n'avait jamais entendu cette histoire. Grand, dégingandé, longs cheveux à la taille, attachés en arrière. Célère prit position sur la rive, penché en posture de course, et attendit que le mur de la tempête traverse la mer dans un fracas tonitruant. Kaladin sursauta quand Malice lâcha une salve de notes pour signaler le début de la course. Célère s'élança en précédant de peu le furieux mur d'eau, d'éclairs et de rochers charriés par le vent. Malice ne reprit la parole que lorsque Kaladin le relança.
« Au départ, » dit Kaladin, « Célère se débrouillait bien. »«
Sur l'herbe et les rochers, notre Célère courait. Il enjambait les pierres, esquivait les arbres, les pieds agiles et l'âme ensoleillée. Grandiose, la tempête tonnait, tournoyait, mais notre Célère lui échappait. C'était lui qui menait, le vent qui le suivait. Allait-il donc prouver qu'on pouvait vaincre les tempêtes ? Rapide et sûr, il traversa les terres, laissant Aletkar derrière lui. Mais voilà que la véritable épreuve l'attendait, car des montagnes se dressaient qu'il lui faudrait gravir. La tempête s'emporta, lâcha un hurlement. Il comprit que sa chance approchait peut-être. Vers les cimes les plus hautes et les pics les plus froids grimpait Célère, notre héros. Les pentes étaient abruptes, les chemins incertains. Allait-il conserver sa si nette avance ?
« De toute évidence, non, » répondit Kaladin. « On ne peut jamais rester en tête, pas pour très longtemps. »«
Non, la tempête approcha jusqu'à lui mordre les talons. Son souffle lui glaçait la nuque. Sa froide haleine l'entourait de toutes parts, aile de givre et gueule de nuit. Sa voix était celle des rochers qui se brisent, son chant, celui des trombes de pluie violentes.
Kaladin les sentait, l'eau glacée qui s'infiltrait dans ses vêtements, le vent qui lui cinglait la peau, un hurlement si sonore qu'il masqua bientôt tous les autres bruits. Il avait été là-bas. Il avait ressenti tout ça.
Voici qu'il atteignit la cime. Voici qu'il trouva la pointe. Ses lèvres cessa de grimper. Il traversa le pic, et sur la pente descendante, la vitesse revint à lui. Hors de la tempête, le soleil il retrouva. Les plaines d'Azir étaient désormais son chemin. Il s'élança vers l'ouest, à foulée plus ample.
Mais il faiblissait, intervint Kaladin. Aucun homme ne peut courir si vite et si loin sans fatiguer, même Célère.
La course, cependant, lui fit bientôt payer son prix. Ses pieds semblaient de briques, ses jambes de coton. Notre coureur haletait, la fin approchait. La tempête était vaincue, mais notre héros ralentissait.
D'autres montagnes, murmura Kaladin. Chinovar.
Un ultime défi dressa la tête, une ombre finale à son grand effroi. De nouveau s'éleva la terre, les monts brumeux qui gardaient les Chinoves. Pour laisser derrière lui les vents de la tempête, notre Célère se remit à gravir.
Et la tempête le rattrapa.
Les tempêtes à nouveau l'attaquèrent par derrière dans un tourbillon de vent. Le temps lui manquait, la fin approchait, et notre Célère courait à travers les montagnes. La tempête l'atteignit. Même en descendant de l'autre côté des montagnes, il ne put garder son avance. Il traversa les pics, mais perdit l'avantage. Les derniers chemins s'ouvraient devant lui, mais il avait usé sa force, perdu sa puissance. Chaque pas lui coûtait, chaque souffle le blessait. Il traversa péniblement une terre engloutie où l'herbe morte ne bougeait pas. Mais la tempête faiblissait, elle aussi. Tonnerre perdu, éclairs épuisés. Les gouttes glissaient sur lui, faibles et humides désormais, car Chine n'est pas un endroit qui leur sied. Devant lui s'ouvrit la mer, sa destination. Célère conserva son avance, les muscles à vif. Ses yeux voyaient à peine, ses jambes le portaient à peine, mais il avançait toujours vers son destin. Vous connaissez l'issue, vous connaissez la fin. Légendaire à l'image des plus grands destins.
De la musique. Mais sans mots. Malice attendit la réponse de Kaladin. Ça suffit, songea celui-ci. Il est mort. Il a échoué. Fin de l'histoire. La musique se tut brusquement. Kaladin ouvrit les yeux et regarda Malice. Serait-il furieux qu'il ait fourni une si piètre conclusion? Malice le fixait, l'instrument toujours sur son giron. Il ne semblait pas en colère.
« Alors vous connaissez bel et bien cette histoire ?» dit-il à Kaladin.
« Pardon ? Je croyais que vous étiez en train de l'inventer. »«
Non, c'est vous qui l'avez fait. »«
Dans ce cas, qui a-t-il à savoir ?» Malice sourit.
« Toutes les histoires ont déjà été narrées. Nous nous les racontons à nous-mêmes comme les hommes l'ont fait de tout temps, comme ils le feront de tout temps. Seuls les noms sont nouveaux. »
Kaladin s'assit. D'un doigt, il tapota le bloc de pierre qui lui servait de banc. « Donc, Célère, il a existé ?»«
Tout autant que j'existe, » répondit Malice.
« Et il est mort ?» demanda Kaladin. « Avant de pouvoir terminer la course ?»«
Il est mort. »
Malice sourit. « Qu'y a-t-il ?» Malice attaqua son instrument. La musique traversa la petite pièce. Kaladin se remit debout tandis que les notes atteignaient une nouvelle apogée.
Sur cette contrée au sol terreux, cria Malice, notre héros tomba, sans plus bouger, le corps vidé, toute énergie éteinte. Célère, le héros cessa d'être. La tempête approchant le trouva là, elle s'arrêta aussitôt dans sa course. Tombaient les pluies, soufflait le vent, sans plus pouvoir aller de l'avant. Viser la gloire la plus ardente, vivre la plus intense des vies, dépasser ses propres limites et relever les plus grands défis. Tel est, comprit le vent, ce que vivent les hommes. Telles sont leurs gageures, leurs aspirations.
Kaladin s'avança lentement vers les barreaux. Même avec les yeux ouverts, il le voyait. Il l'imaginait.
Ainsi donc, sur cette contrée au sol terreux, notre héros arrêta la tempête elle-même. Et tandis que la pluie tombait comme coulent les larmes, notre scélère refusa d'interrompre sa course. Son corps était mort, mais non pas son désir, car les vents virent soudain son âme s'élever. Elle s'envola au dernier chant du jour pour remporter la course et l'aube conquérir. Au-delà de la mer, au-delà des vagues, jamais plus notre scélère son souffle ne perdit. Fort à jamais, preste à jamais, libre à jamais de défier le vent.
Kaladin posa les mains contre les barreaux de sa cage. La musique résonna dans la pièce, puis mourut lentement. Kaladin attendit un moment tandis que Malice regardait son instrument, un fier sourire aux lèvres. Enfin, il le rangea sous son bras, prit son sac et son épée, puis se dirigea vers la sortie.
« Qu'est-ce que ça signifie ?» chuchota Kaladin.
« C'est votre histoire, à vous d'en décider. »
« Mais vous la connaissiez déjà ?»«
Je connais la plupart des histoires, mais je n'avais encore jamais chanté celle-ci. »
Malice se retourna vers lui en souriant.
« Que signifie-t-elle, en effet, Kaladin du pont 4 ?»« Kaladin béni des foudres ?»«
La tempête l'a rattrapé, » répondit Kaladin.
« La tempête finit toujours par rattraper tout le monde. Est-ce important ?»«
Je n'en sais rien. »
Parfait.
Malice leva son épée vers son front, comme en signe de respect.
Comme ça, vous aurez un sujet de réflexion.
Puis il partit.